Marie-Jeanne Missoff, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gérante chez SPGP. On va parler avec vous, bien sûr, de marché européen en priorité. Comment vous abordez en ce moment les marchés avec, on va dire, tous les jours des nouvelles qui concernent, hein, on peut le dire, principalement le secteur bancaire et les dettes souveraines des États?
Alors écoutez, en ce moment c'est particulièrement difficile parce que comme vous le constatez vous-même, les marchés sont d'une volatilité extrême, donc ils sont un peu perdus. Il y a énormément d'interrogations sur comment va se passer l'année 2012. Quelle sera la croissance en 2012? Comment vont s'en sortir les entreprises? La visibilité n'est pas extrême. Alors, effectivement, cette semaine est particulièrement importante puisque, comme vous le savez, on a ce sommet européen à la fin de la semaine avec beaucoup d'attentes.
Oui, on a
Puisque,
l'impression qu'il y a beaucoup effectivement
oui.
d'attentes. Est-ce qu'elles sont démesurées, comme d'habitude, on attend beaucoup de ce type de rendez-vous?
C'est-à-dire qu'en fait, on reproche aux politiques de ne pas être intervenus plus tôt de façon plus importante. Il y avait eu un premier train de mesures au mois de juillet avec la constitution de ce fonds européen de soutien. Maintenant, quels vont être les moyens de ce fonds? Là-dessus, il y a beaucoup de spéculations, puisqu'on a parlé. Enfin, au départ, en fait, le montant décidé était de 750 milliards d'euros. Donc, je vous rappelle, en fait, il y a 450 qui est en fait financé par les différents pays de l'Union européenne. Et donc les principaux contributeurs, là, sont l'Allemagne et la France. Et puis tous les autres pays, même le Portugal, l'Espagne, l'Italie, tout le monde contribue à hauteur de son poids dans l'économie européenne. Il y a 250 qui viennent du FMI. Alors est-ce que cette enveloppe sera augmentée? C'est possible, parce qu'on a vu que certains pays étaient prêts à venir un peu au secours de l'Europe. Et il y a enfin, je crois que c'est 60 qui viendraient de la Commission européenne. Maintenant, donc là, on est sur un montant de 750. On a parlé d'un montant qui irait jusqu'à 2 milliards. Maintenant, ces 2 milliards, d'où vont-ils venir? Là-dessus, il y a beaucoup d'interrogations. On parle plutôt d'un milliard. Mais enfin, là-dessus, il y a vraiment une grande
1000, 2000
interrogation.
milliards, hein, c'est 1000, 2000,
Oui, mais oui,
parce
pardon,
qu'on
oui,
est, on en est
trilliards. On
tellement
est en
loin.
trilliards,
Oui,
oui.
oui,
Donc le
oui.
montant initial, c'est
Oui.
750 milliards. Et on pourrait aller
Ouais.
jusqu'à 1,
Ouais.
voire 2 milliards. Mais là,
Ouais.
il y a des grandes interrogations. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est à un problème où tout est vraiment intégré. D'un côté, il y a le bilan des banques, mais le bilan des banques, en fait, c'est essentiellement l'exposition des banques à la dette des pays périphériques. On sait que la dette grecque, de toute façon, doit être passée en perte pour partie, mais pour quel montant? Au départ, on parlait de 20%. Alors, 20%, ça peut être absorbé par le bilan des banques sans problème. Maintenant, on parle de 50, on a même parlé de 60%. Là, ça fait quand même des pertes beaucoup plus importantes pour le secteur bancaire et donc éventuellement un besoin de recapitalisation. Donc, on parle, pour ce week-end, on va parler à la fois du bilan des banques et du montant de la recapitalisation effectuée, de ce fonds de soutien qui pourrait assurer une espèce de rempart contre la spéculation sur les dettes européennes. Donc, tout ça est très, très imbriqué, en fait. Donc on attend, si vous voulez, ce qui se passe sur la recapitalisation des banques, qui pose beaucoup d'interrogations, c'est que d'un côté, on dit qu'il faut qu'elles soient en ligne avec Bâle 3, il faut que les fonds propres soient augmentés rapidement, mais d'un autre côté, l'exposition à la dette, on ne sait pas exactement de combien il faudra provisionner. Si demain, alors on voit des études qui sont écrites par des analystes souvent anglo-saxons, qui, prévoyant un éclatement de l'euro, envisage la nécessité de provisionner les dettes italiennes, espagnoles, enfin, de
Puis on
tous les
arrive à
pays.
la France ensuite,
Et
donc
voilà.
oui.
Et donc là, c'est un scénario catastrophe qu'on ne peut pas envisager, parce que à ce moment-là, effectivement, à ce moment-là, les recapitalisations nécessaires seraient. Les montants qui sont envisagés à ce moment-là sont monstrueux. Je pense qu'il faut rester un petit peu plus raisonnable. Et je pense qu'en plus, il y a pas mal d'exagérations sur la situation, en fait.
Donc quelque part, ça pollue, ça enlève,
Non,
j'irais, on
on fait
voit plus
en...
ce qui se passe, puisqu'on est complètement noyé d'informations principalement sur ce
C'est-à-dire qu'on
secteur-là,
est
on va
sur des
dire.
sables mouvants,
Ouais.
sachant que, comme tout le monde le sait, les banques, c'est quand même. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, en fait, on s'inquiète à juste titre, à la fois de la solidité des banques. Bon, les banques françaises sont quand même solides. Maintenant, c'est vrai qu'elles ont un bilan, elles sont très exposées à ces dettes périphériques. Donc, effectivement, la solidité de la zone européenne doit être prouvée et doit être, en fait, backée par des organismes supranationaux pour un peu tranquilliser les marchés financiers. Il y a aussi la mise en route de Bâle 3, en fait, avec
Qui
des
vient
nouveaux
mauvais
ratios
moment en
qui
quelque
arrivent au
sorte.
très mauvais moment, puisqu'en fait, Bâle 3 impose des ratios de sécurité, en fait, assez très prudentiel, avec des niveaux de fonds propres très élevés. Ça revient un petit peu à un encadrement du crédit, en fait. Donc, à un moment où on s'inquiète sur la solidité de la reprise l'année prochaine, si on sait qu'en plus le crédit va manquer, en fait, on sait déjà qu'il va manquer pour les petites entreprises, parce que, en fait, les banques, quoi qu'il arrive, vont être obligées de diminuer leur bilan. Donc, c'est inquiétant pour le financement des PME. Et on est vraiment. Et bon, tout ce qui est crédit à la consommation aussi va en souffrir. Donc, c'est encore, en fait, un des paramètres qui va peser sur l'activité de l'année prochaine.
Ça, par rapport à vos investissements, vos choix de gestion, ça vous gêne? C'est-à-dire que quelque part, ça vous amène à être encore plus restrictif sur les valeurs que vous allez choisir, sur les secteurs que vous allez regarder pour investir?
Alors, en fait, ce qui se passe dans un environnement comme celui-ci, n'ayant pas vraiment une visibilité forte sur l'année prochaine, de quoi sera faite la croissance l'année prochaine et à quel montant elle va s'élever. Je vous rappelle que là, par exemple, on a un budget en France qui a été construit sur des hypothèses de croissance supérieure de l'ordre de 1,75. Ben, aujourd'hui, les
personne
économistes,
n'y croit,
voilà,
ouais, sauf
aujourd'hui,
le gouvernement.
tous les économistes prévoient au maximum 0,9. Donc bon, ouais. Il y aura des révisions à faire, des révisions d'ailleurs budgétaires qui risquent d'être douloureuses aussi. C'est clair que dans cet environnement-là, moi, je préfère privilégier quand même des sociétés, et on trouve beaucoup de sociétés qui sont quand même relativement immunes. D'ailleurs, je vous rappelle, enfin, pour ça, on a l'exemple du marché américain, qui est quand même assez remarquable, puisque le niveau des indices américains sont quasiment flat depuis le début de l'année, en dépit quand même d'un taux de chômage très élevé, d'une économie qui, même si elle semble reprendre finalement, reprend très lentement. Les entreprises, finalement, ont des très bons résultats. Et on réussit à dégager ces résultats grâce à une exposition internationale très, très importante.
Alors, on se dit, ça n'a peut-être pas continué, justement, si on prend les entreprises de la zone euro. Alors, celles qui ne dépendent pas de la zone euro, elles pourront justement avoir de la croissance. Les autres, elles vont être impactées aussi.
Oui, alors, toutes celles... C'est vrai qu'on a... j'ai plutôt tendance à chercher des entreprises qui sont exposées à une croissance plus visible et plus sûre, parce que la croissance des émergents est quand même aujourd'hui plus solide. C'est vrai qu'en 2008, les émergents ne s'étaient pas découplés, parce qu'au contraire, ils avaient amplifié la crise. Il semblerait qu'aujourd'hui, même si on a encore des interrogations, et d'ailleurs les marchés sont aussi très volatiles à cause de ça, sur le niveau de la croissance chinoise, sur les inquiétudes sur une bulle immobilière, sur des mesures qui pourraient être prises pour un peu freiner cette croissance. Donc là, en ce moment, il y a quand même pas mal d'incertitudes là-dessus. Mais c'est clair que les émergents aujourd'hui se portent beaucoup mieux qu'ils ne se portaient en 2008. Et que donc, on trouve des sociétés qui dégagent des résultats très significatifs. Donc c'est clair
donc,
que
c'est plus là que vous allez aller chercher.
C'est là que je vais chercher des entreprises. Et on trouve. Bon, moi, j'investis surtout sur toute la périphérie européenne. Donc j'ai des investissements en Italie. Le marché italien, paradoxalement, s'en sort mieux puisque depuis le début de l'année, la performance du marché italien est supérieure à celle du DAX, qui est quand même le marché allemand, ce qui est quand même assez surprenant, a priori. Mais en Italie, on trouve pas mal de sociétés, justement, qui sont très internationales et qui sont sur des secteurs qui s'en sortent très bien. Je parle, par exemple, du secteur du luxe. Toutes ces sociétés, évidemment, vendent en Europe, mais aussi beaucoup en Asie. Et donc, on a des résultats qui en bénéficient. Ferragamo, qui s'est introduit en bourse il n'y a pas très longtemps, les niveaux de valorisation sont très élevés, mais il y a une telle croissance sur le marché chinois où ils sont présents depuis 15 ans qu'il y a une visibilité et une sécurité, en fait, quand même assez exceptionnelle. Et on trouve aussi beaucoup d'autres sociétés dans le secteur technologique. Où il y a quand même en Europe des sociétés très fortes qui ont des bilans très sains et qui peuvent sortir leur épingle du jeu dans un environnement économique un peu plus mouvementé.
Mais
moins
ça veut dire, en conclusion, vous serez quand même investi ou vous allez être à certains moments, justement, vous allez ressortir du marché en attendant?
J'ai un petit peu de cash en portefeuille, je crois, comme beaucoup, parce qu'avoir 8 à 10% de cash aujourd'hui, ça paraît raisonnable. C'est vrai qu'aujourd'hui, certains disent qu'il faut se repondérer sur les secteurs très cycliques. Moi, j'ai quelques sociétés cycliques, mais vraiment... des sociétés sur lesquelles j'ai une bonne visibilité et une grande confiance, comme par exemple Saint-Gobain en France. Saint-Gobain a aussi une exposition internationale et dégage du cash même dans des environnements très difficiles. Mais c'est clair que j'ai plutôt une gestion plus prudente dans l'environnement actuel.
Merci d'avoir fait le point avec nous, Marie-Jeanne Missoff. On rappelle, vous êtes donc gérant chez la société SPGP.
Merci.